19h46 minutes. On vous rappelle que les balados sorties de zone, c'était fait aujourd'hui d'ailleurs, c'est disponible, sont disponibles pour écoute et téléchargement sur les sites web et applications du 98.5 FM et de la presse, ainsi que sur les plateformes Apple et Google Balado. D'ailleurs, il faisait partie de cette balado aujourd'hui sortie de zone. Philippe Quentin est avec nous. Salut Philippe.
Ouais, salut Jérémy. Ça brasse encore un petit peu aujourd'hui.
C'est le fun. C'est agréable. Non, honnêtement, c'est le fun. J'aime bien le concept. C'est fort intéressant. Et Mario Landlois, évidemment, qui était en relâche aujourd'hui, sera de retour à l'animation dès lundi pour une autre édition de ce balado sortie de zone. Maintenant, Philippe, aujourd'hui, quand tu es arrivé, la première chose que tu m'as dit, tu as dit « Oh, ça sera une grosse journée aujourd'hui. Ouais. » On venait d'apprendre le décès d'Henri Richard. Ta réaction par rapport au décès?
Bien, tu sais, on savait tous qu'Henri Richard était vraiment dans un état très délicat, très difficile depuis plusieurs années maintenant. Donc, de ce côté-là, la nouvelle d'aujourd'hui n'est pas étonnante. Mais à quelque part, quand j'ai appris ça ce matin, j'ai eu un choc. C'est toujours un moment triste quand une légende comme Henri Richard nous quitte, un gars qui a eu tellement d'importance dans notre histoire sportive, qui a été au cœur d'épisodes fabuleux, de triomphes extraordinaires du Canadien, de controverses aussi, dès son plus jeune âge, dès ses débuts dans le hockey, puis j'y reviendrai tantôt. Et donc, c'est ça, c'est que, oui, c'était une mort, à quelque part, annoncée, mais il n'en reste pas moins qu'on a un choc. On a un choc parce qu'il nous a marqué, puis je pense que même les gens qui ne l'ont pas vu jouer, puis c'est la grande majorité des gens aujourd'hui savent qui est Henri Richard, savent son importance. Oui, c'est le frère de Maurice, mais c'est pas seulement le frère de Maurice. C'est l'homme aux 11 Coupes Stanley, c'est l'homme droit, capable de livrer le fond de sa pensée quand il le fallait, qui n'a jamais hésité à le faire. Un grand athlète, un grand sportif, un grand joueur du Canadien.
Tu vois, moi, quand on s'est rencontrés un peu plus tôt aujourd'hui, je t'ai dit, tu sais, c'est dommage parce que pour moi, Henri Richard représente un monsieur aux cheveux blancs. Mm-hmm. Parce que je suis né en 74, il a terminé sa carrière en 75. Évidemment, j'ai vu des images, je connais les histoires parce qu'il y a eu du bouche à oreille. Mais aujourd'hui, ce que j'ai appris avec les entretiens que nous avons eus aujourd'hui, ce que j'ai appris, c'est la façon dont Henri Richard détestait perdre.
Ouais.
Et ça, je trouve qu'on perd ça dans le sport professionnel aujourd'hui, qui est rendu un sport spectacle, parce que les joueurs vont changer de place. Mais je déteste pas le petit côté détester l'adversaire.
Les Richards, ils sont pareils, Maurice et Henri. Ils n'ont jamais aimé perdre et ils ont toujours été des bagarreurs. Puis c'est drôle parce que ce qui frappe quand on étudie un peu l'histoire de ces deux hommes-là, d'abord, c'est qu'ils se sont très peu parlé à la mort de Maurice en 2000. Henri a confié au journaliste Pierre Gobeil de la presse que si on mettait bout à bout toutes les conversations qu'il avait eues durant sa vie avec son frère aîné, ça ferait pas 30 minutes sur une cassette. C'était pas des gens bavards, puis il y avait cette différence importance d'âge. Il faut pas oublier, c'est 15 ans de différence. Maurice était pas un gars qui s'exprimait beaucoup. Henri non plus. Tu sais, puis il y a cette fameuse anecdote là qui Henri, il gradue avec le Canadien en 1955, puis il Gouin à peine quelques mots d'anglais. Et puis là, il y a un journaliste qui arrive et qui demande à Toe Blake, qui est l'entraîneur du Canadien, est-ce qu'Henri parle assez bien anglais pour répondre à mes questions? Et Toe Blake dit, écoutez, il parle tellement pas souvent que je ne sais même pas s'il parle français. alors, ça raconte, ça donne un peu l'idée. Mais Henri, très jeune, dit-il, j'en parlais tantôt, a connu la pression parce que dès 1952, il y a 16 ans, puis il s'aligne avec le Canadien junior. Tu sais, la rivalité Canadien-Nordique, Québec-Montréal, ça n'a pas commencé avec Canadien-Nordique. C'était très présent dans les années 50. Après ça, ça a été plus tranquille pendant un certain nombre d'années, mais dans les années 50, c'était comme à l'époque Canadien-Nordique. Et dans le hockey de la Ligue junior A du Québec, il y avait le Canadien junior à Montréal, puis il y avait les Citadelles de Québec à Québec. Et les matchs entre les deux clubs, ça remplissait les amphithéâtres. À Québec, c'était toujours plein. Et dans un match, Henri s'est fait un peu chahuter parce que pour des raisons là, qui sont trop longues à expliquer ici, Maurice n'était pas un gars populaire à Québec. Maurice, là, il y avait le Québec à ses pieds, sauf la région de Québec. Et tout ça, ça remonte à un match qui avait eu lieu en 1944 où il s'en était pris à l'arbitre qui était un gars de Québec, puis ça lui avait valu une mauvaise réputation à Québec, puis c'était toujours resté. Et ça a pris des années avant que les relations entre les gens de Québec et Maurice se rétablissent. Il a fallu qu'il devienne entraîneur des Nordiques dans l'AMH. Ça n'a pas duré longtemps.
C'est ça, ça n'a pas duré longtemps.
En 1972, puis même avant d'accepter, Maurice avait dit, moi, je veux un signe tangible que les gens de Québec vont vraiment vouloir que je vienne à Québec. Il avait été présenté avant un match à la foule, avant un match de baseball 2A, les Carnavals de Québec au stade municipal. D'habitude, il y avait 1500 personnes pour assister aux rencontres. Ce jour-là, il y en avait 7000, c'était plein. Il y avait une ovation monstre, puis ça avait comme réconcilié tout le monde. Mais Henri a été un peu victime de ces relations difficiles. Alors, quand il allait à Québec, il était hué. Puis là, Maurice s'est plaint du traitement réservé à son petit frère dans une chronique qu'il rédigeait. Les plus vieux se souviennent de sa chronique dans la presse à Maurice, puis avant ça, sa chronique dans dimanche matin, mais il a commencé dans Samedi-Dimanche, qui était un hebdomadaire à l'époque. Et là, Maurice ramasse le monde de Québec parce qu'ils n'ont pas été fins avec Henri. Ça crée une controverse, Jérémy. Écoute, ça rebondit jusqu'au Parlement de Québec. Ça a été énorme. Alors, le match suivant à Québec, là, deux semaines plus tard, parce que les Canadiens juniors retournent à Québec, il y a 16 000 personnes au Colisée. 16 000 personnes. Il y a 10 000 bancs, puis il y a du monde partout. Là. Peut-être pas 16, je pense que c'est en haut de 15, par exemple. Et là, à chaque fois qu'il touche à la rondelle, Henri est tué là, par la foule. Là, il y a 16 ans. Alors, il a commencé à comprendre, à connaître cette pression très particulière du hockey au Québec très, très, très jeune. Et puis, en 1955, il s'est joint à l'équipe. Ses 5 premières saisons, il gagne 5 Coupes Stanley. C'est les 5 dernières années de Maurice qui, lui, termine avec 5 Coupes Stanley. C'est quand même extraordinaire quand on y pense.
C'est extraordinaire. Il a vécu dans l'ombre de son frère. Tu l'as si bien dit, Maurice Richard. Il a vécu dans l'ombre d'être derrière Jean Béliveau également.
Ouais.
J'ai entendu un peu plus tôt qu'on disait qu'il a toujours été sur le deuxième avantage numérique.
Ouais, c'est Serge Chavard qui expliquait ça, plus tôt aujourd'hui. C'était
c'est
assez
ça.
Intéressant.
Dans votre entretien que tu as eu avec lui
Patrick Lagacé,
et Patrick Lagacé. Et ce qu'on comprend, c'est malgré l'adversité, la priorité numéro un d'Henri Richard, ça a toujours été que le Canadien gagne des matchs.
Oui, c'est ça. Et gagne la Coupe Stanley. Puis, tu sais, son plus fabuleux match, pour moi, c'est clair. Là, c'est le septième match de la série finale de 1971 contre les Blackhawks de Chicago. Les Blackhawks avaient pris les devants à Chicago dans la série 3-2. Et après ce cinquième match-là, ulcéré de ne pas avoir été utilisé régulièrement par l'entraîneur Al McNeil, il a fait une sortie fracassante en disant que Al McNeil était le pire entraîneur à l'avoir jamais dirigé. Écoute, tu sais, quand on parle que des fois, il y a des crises chez le Canadien, aujourd'hui, le seul en 71, on n'a pas vu ça depuis ce temps-là. Une crise aussi importante. Il y avait même eu des menaces à l'endroit de McNeil. Il faut se souvenir de l'époque aussi. McNeil était un entraîneur unilingue anglophone. On sortait de la crise d'octobre en 70. Il y avait tout un contexte aussi. Et là, Henri Richard, le Canadien, ça crée une commotion. Le Canadien réussit à gagner le sixième match au Forum. Et là, on s'en va pour le septième match au Chicago Stadium. Les Blackhawks prennent les devants 2-0. Jacques Lemaire réussit à faire 2-1. Et là, Henri Richard fait 2-2 et Henri Richard fait 3-2. Et le Canadien remporte la Coupe Stanley. Donc, Henri Richard, là, quand il était justement là, vraiment, les projecteurs étaient braqués sur lui. Il fallait qu'il montre s'il était capable de sortir un gros match dans une situation très controversée qu'il avait lui-même créée avec ses déclarations. Hey, 2 buts, puis il fait gagner son équipe sur la route, puis le Canadien remporte la Coupe Stanley. Tu sais, quand on parle d'une légende, là, c'est quoi qui fait qu'on est. C'est quoi la différence entre un excellent joueur puis une légende? Pour moi, elle est là. Excellent joueur, c'est un excellent joueur qui joue bien, peut gagner des Coupes Stanley, des trophées individuels. Une légende, c'est quelqu'un qui arrive dans une situation tellement difficile où il sait là, que tout le monde le regarde, là, puis au lieu de l'écraser, ça le bonifie de façon extraordinaire, puis il joue le plus grand match de sa carrière. C'est une histoire extraordinaire, et pour ça, Henri Richard est une légende.
D'ailleurs, j'invite les gens d'aller faire un tour sur YouTube. Vous êtes en mesure de voir ce fameux but-là. Ouais. Il est droitier, déborde le défenseur, coupe devant le filet.
Belle passe de Réjean Houle.
Oui, et des joue le gardien de but pour donner la victoire aux Canadiens 3-2, en du moins donner les devants. Finalement, le Canadien a tenu le coup et a remporté ce match 3-2 pour remporter, je pense, c'était quoi, la 18e Coupe Stanley?
Ah, écoute, en 71, il faudrait faire le compte. Il y en a eu 73 après ça les 4 et puis après ça les 2 autres. Là.
Mais bref, c'est une carrière fort chargée pour
Le Parker Rocket. Je l'ai rencontré quand j'ai fait des recherches pour mon livre, Le Colisée contre le Forum. J'ai eu un long entretien avec lui. Il avait été très, très généreux. Puis c'est ça, ça avait été parce qu'il avait rappelé, parlé de sa relation avec Maurice et tout. Mais tu sais, c'était tout un athlète aussi, tout un joueur de tennis, Henri Richard, un excellent joueur de golf. Il a fait de nombreux trous d'un coup. C'était vraiment un personnage qui, quand tu... moi, j'ai eu la chance dans cet entretien-là, je l'ai interviewé 2 fois. Okay? Une fois au début des années 90 et cette fois-là, tu étais toujours un peu nerveux quand tu interviewais Henri Richard. T'sais, c'était pas tout le temps... comment ça allait se passer? Parce que tu sais, c'est regard, tu sais, t'en regardais dans le fond des yeux, puis il fallait que tu sois prêt. Ouais, c'est ça. Mais une fois qu'il sentait que là, t'étais là pour les bonnes raisons, puis que tu connaissais un petit peu ton affaire, puis tu pouvais poser, il devenait extrêmement généreux, puis c'était des entretiens extraordinaires.
Merci de nous témoigner de tout ça. C'est fort intéressant de comprendre un peu plus le personnage d'Henri Richard qui s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 84 ans. Je veux qu'on prenne quelques instants pour parler de Leila Annie Fernandez, elle qui a connu beaucoup de succès du côté du Mexique. Elle est tout jeune, 17 ans seulement. Ouais. Quelle carrière! À venir pour elle, quelle carrière!
Oui, tout à fait. Puis ce soir, elle dispute un match de quart de finale contre l'Ukrainienne Elina Svitolina à Monterrey au Mexique. C'est quand même incroyable de la voir atteindre ce niveau-là. Elle a battu cette année Belinda Bencic, la Suissesse. Elle a battu Sloane Stephens. Qui est une ancienne gagnante de l'Omnium américain. Donc, vraiment des grosses pointures dans le tennis féminin. Et là, ce soir, ben, écoute, je pense que c'est la Svitolina de mémoire est sixième au monde. Ça ne sera pas facile, mais qu'elle soit rendue là à 17 ans, je trouve ça exceptionnel.
Est-ce que tu as vu un moment donné dans le dernier tournoi, son coach et elle se parlent en français? J'ai l'impression qu'on veut éviter que les gens comprennent parce qu'elle peut s'exprimer en français, en anglais, en espagnol. Ils se parlent en français pour communiquer.
Écoute, tu me l'apprends, je ne savais pas. C'est très, très bien. C'est le fun. Et je pense qu'on va la surveiller de plus en plus. Peut-être que parce qu'elle est très jeune puis qu'elle commence, puis là, il est arrivé l'explosion avec Denis Shapovalov puis Félix Auger-Aliassime et bien sûr Bianca Andreescu. Elle est, pour reprendre l'expression, passée un petit peu sous le radar, mais là, ce qu'elle est en train de faire, elle a quoi, grimper d'une soixantaine de au classement mondial déjà depuis le mois de janvier, est vraiment en train de tailler sa place. Et elle, on va parler d'elle pendant des années. Alors, c'est vraiment le fun qu'on ait encore une autre joueuse vers qui on va pouvoir, à qui on pourra s'intéresser là, au cours de la saison.
Allons maintenant, et on va terminer là-dessus, on va parler du coronavirus. Ouais. Évidemment, la Ligue nationale de hockey surveille ça de proche. Ouais. Il y a des événements qui sont annulés. Raconte-nous les derniers développements.
Ben, t'sais, les derniers développements, d'abord au Japon, la flamme olympique doit arriver au Japon ce mois-ci, un petit peu vers la fin du mois. Puis là, l'idée au Japon, c'était d'envoyer 140 jeunes à Athènes, ou à Olympe, en fait, où on allume, tu sais, bon, dans une cérémonie symbolique, la flamme olympique. Puis après ça, tout ce monde-là retourne au Japon. Mais finalement, ce voyage-là n'aura pas lieu. Les jeunes japonais n'iront pas en Grèce. Puis on va probablement diminuer un peu, là, surtout au début, toute l'envergure de la flamme olympique de son passage. Le tournoi d'Indian Wells, aujourd'hui, de tennis, qui commence bientôt ce mois-ci, a annoncé que les chasseurs de balles n'auraient pas le droit ne remettraient pas des serviettes aux joueurs, tu sais, pour qu'ils s'essuient pour la sueur. Si les joueurs veulent des serviettes, ils iront les chercher eux-mêmes, et puis les chasseurs de balles vont porter des gants, tout comme tous les gens qui travaillent dans les concessions alimentaires, les gens qui déchirent les billets à l'entrée, ou qui font, bon, on ne déchire plus les billets, aujourd'hui on les valide avec un code, mais qui font ce travail-là. Donc vraiment, on commence à prendre des mesures, mais là, tu sais, tu as de gros rendez-vous qui s'en viennent. Je sais qu'on a beaucoup parlé des Jeux olympiques, puis on verra bien quelle décision sera prise. Mais tu sais, avant ça, il y a Roland Garros qui s'en vient, puis la France, dans le moment, c'est plus difficile. Il y a des grands prix de Formule 1. Là, le calendrier va bientôt commencer. Celui de Chine est déjà annulé, mais tu sais, il y aura des questions qui vont se poser pour d'autres aussi. Il y a l'euro aussi. L'euro, et tu sais, c'est bizarre. L'euro, pour la première fois, c'est pas dans un ou deux pays. Cette année, on a décidé, ça fait longtemps, la décision a été prise il y a très longtemps, que pour éviter que des villes doivent dépenser des millions de dollars pour créer des hôtels, des aéroports, des infrastructures. On dit, on va prendre les grandes capitales qui sont déjà bien équipées, puis on va jouer les matchs là-bas. Alors, il y aura des matchs à Paris, des matchs à, je pense qu'il y en a à Rome, il y en a un peu partout, les finales en Angleterre. Mais là, avec le coronavirus, tu sais, comment on va composer avec tout ça? On se promène partout, là, partout en Europe. C'est pas simplement un endroit. Alors, ça risque d'être un petit peu plus difficile comme défi. J'ai hâte de voir comment ils vont réussir à composer.
Il y a un enjeu de santé publique, mais il y a un enjeu financier important également avec tout ça. Philippe, je te dis merci beaucoup. Je te souhaite un bon vendredi.
Merci beaucoup,
je te souhaite un bon week-end
aussi.
Et
merci,
puis on aura
Jérémy.
La chance de se reparler, je suis convaincu, au courant de la semaine prochaine. Philippe Quentin, merci d'avoir été
Salut.
Avec nous. On s'arrête quelques instants, on s'informe Guy Simard qui s'amène avec nous. Au retour, on va aller faire un tour avec Martin McGuire du côté des Panthers de la Floride, parce que vous savez, demain, on va retirer le chandail de Roberto Luongo. Beaucoup de réactions aujourd'hui, Martin McGuire sera avec nous. Merci de nous écouter sur l'ensemble du réseau Cogeco. Merci d'être là aux amateurs de sport.